Hill avec ce classement de la plateforme américaine meilleur album de tous les temps pour refermer ce journal international où vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté.
Radio G 101.5 FM.
Rendez-vous les 14, 15 et 16 juin pour le festival Thomas Ranch à 20 minutes d'Angers. Un programme dépaysant aux allures de western. Profitez de 3 jours de concert, essayez-vous à l'équitation western ou grimpez à bord de bolide 100% US. Poussez les portes du ranch et venez vivre le rêve américain les 14, 15 et 16 juin à Contigny. Plus d'informations sur thomas-ranch-festival.net.
Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
Le printemps de Claude François, ça s'en va et ça revient. Tu l'as, Angelina, c'est bon, ça, c'est validé, ça. Ouais, elle est pas près du micro ce soir. En tout cas, on aura bien évidemment des invités tout au long de la semaine. D'ailleurs, demain nous serons avec la médiathèque de la Renloup, partenaire de l'émission du côté de Saint-Barthélemy. D'Anjou, mercredi on sera avec les services culture de la ville d'Angers, partenaire aussi de l'émission. On va présenter la prochaine saison des théâtres de la ville avec Jean-Jacques Garnier. On parlera aussi certainement de la fête de la musique. Et jeudi on sera avec les Folies Angevines, là encore un partenaire de l'émission. Et le contrat local d'éducation artistique dont on avait parlé aussi avec les services culture de la ville d'Angers. Tout se rejoint dans Topette. Ça va Angelina, tu te pars? Qu'est-ce qui se passe?
Soir à l'air marrant, il fait des blagues avec son casque.
On n'avait pas entendu le début, mais c'est pas grave. Tu nous diras ça tout à l'heure si on a 5 minutes. Ce soir, on va parler du château de la Laurie qui va faire des projections monumentales sur sa façade est, précisément celle du XVIIe siècle. Ça va durer pendant 3 ans et ça commence donc cet été 2024 à partir du 13 juillet, en tout cas pour les chiffres que j'avais à l'époque. J'espère qu'ils n'ont pas changé, sinon nos invités vont nous le préciser tout à l'heure. On sera avec Marie Nilinkidi et Xavier de Richemont, créateur peintre vidéo, comme il se décrit. Il nous pourra aussi nous dire qu'est-ce que c'est exactement cette activité. Alors l'idée, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je sais pas, Angelina, tu connais ou pas toi les projections monumentales?
Oui, un petit peu, j'en ai par chez moi, pas à Angers, un peu plus loin, mais il y en a.
Décris-nous pour voir.
Alors moi je pense pas que ce soit les mêmes que Monsieur Richemont, mais c'est des petits logos symboles bretons qui sont projetés sur les remparts.
Ouais, la Tourbale Guérande, on y revient toujours avec toi. On aura plus d'informations bien évidemment au cours de l'émission en direct, et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Topette, c'est parti pour l'avant-dernière de la saison.
Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
L'avant-dernière semaine de la saison, précisons. Allez, un point sur les actus locales avec toi, Nolwenn. Bonsoir Nolwenn.
Bonsoir.
Les élections européennes, qu'est-ce que ça donne dans le département?
Ce dimanche, l'heure était au vote partout en France. Alors quels sont les résultats dans le Maine-et-Loire? Eh bien la tendance s'est inversée. En 2019, c'était la majorité présidentielle qui avait obtenu 26% et le RN lui avait atteint les 18%. Cette année, c'est l'inverse. C'est le parti de Jordan Bardella qui obtient plus d'un quart des votes et le parti Renaissance retombe lui à 19%. Dans les bureaux de vote, globalement, tout s'est bien déroulé, à l'exception de Cholet où un homme a tenté de s'y introduire armé de 3 couteaux. Il a heureusement été maîtrisé par les policiers municipaux. Selon le procureur de la République, l'homme n'était pas menaçant, il était en fait atteint de troubles psychiatriques et était déjà connu pour port d'armes. Ce lundi, LFI 49 a réagi après la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron en affirmant « Macron a choisi l'extrême droite ». Ils appellent toute la gauche à s'unir.
Les secrétaires médicales du CHU d'Angers en grève.
Leur salaire dépasse à peine le niveau du SMIC au CHU d'Angers. 6 secrétaires sur 10 sont sur les plus bas grades de la fonction publique hospitalière. Pourtant, il existe un corps dans cette fonction publique qui correspond à ce métier. C'est celui d'assistant médico-administratif qui est, lui, mieux rémunéré. Et donc, depuis 2015, l'établissement avait mis en place une politique qui simplifiait l'accès à ce grade, en fonction notamment de l'ancienneté et du poste occupé. Mais il y a quelques semaines, la direction de l'hôpital a choisi de mettre fin à ce système. Un concours interne et externe a été instauré. Alors, ce lundi matin, les secrétaires se sont réunis devant l'établissement. Dans un communiqué, le syndicat FO s'inquiétait de la mise en concurrence des secrétaires en interne. Mais le CHU tient à rassurer, le concours maintient, voire majore le nombre de promotions.
Les sirènes ont débarqué au château d'Angers, on parle pas de celle du SAMU. Hein.
Et non, l'exposition itinérante vient d'arriver à Angers. Depuis ce week-end, le public peut faire la rencontre de ces figures aquatiques. Emma Fontenot, chargée de communication pour le château d'Angers, nous explique le but de cette exposition.
Les sirènes, elles sont partout. On connaît tous l'histoire de la petite sirène qui vient en fait du conte d'Andersen. On part de cette figure-là que tout le monde connaît pour explorer un mythe qui est bien plus vaste, puisque autour des sirènes, il y a plein d'autres figures féminines aquatiques qu'on appelle les ondines, mais aussi dans la culture slave, une femme qu'on appelle Roussalka, la figure d'Ophélie qu'on trouve chez Shakespeare. On va parler peut-être de sujets que les gens connaissent moins.
De tout temps, les sirènes ont été source de fascination, au départ maléfique. Elles sont ensuite devenues féminines et séductrices. L'exposition retrace l'histoire fascinante de ces créatures sous différentes formes.
C'est en effet une exposition qui est vraiment conçue pour toute la famille. En plus de voir des très belles œuvres prêtées par des musées, on va aussi avoir des installations immersives, vidéo, avec du son, où on va découvrir ces histoires des sirènes de manière tout à fait ludique.
Vous avez jusqu'en janvier 2025 pour découvrir donc les secrets de ces figures féminines qui ont traversé le temps.
Ça s'en est allé aujourd'hui, mais ça revient demain. Apparemment, le soleil est de retour mardi.
Oui, mardi, le soleil sera très présent. Seuls quelques nuages viendront le cacher dans l'après-midi. Les températures, elles, oscilleront entre 7 et 19 degrés, mais ressenti 23. Côté trafic, quelques ralentissements sont à prévoir sur l'A87 dans le sens Angers-Cholet à hauteur de Saint-Barthélemy d'Anjou.
Merci beaucoup Nolwenn. Dans quelques instants, on va aller du côté du château de la Laurie. Et d'ailleurs, on en parle encore avec Madame Sangène de la Compagnie du Pont d'Ardoise à Segré, qui sera en représentation donc pour Madame Sangène à partir du mardi 25 juin, le soir à 21h. On vous renvoie vers le podcast avec Marie-Pascale. Sinon, vous l'avez entendu juste avant, le Thomas Ranch Festival, c'est ce week-end à partir du 14 juin. Et on vous offre des places. Il vous offre des places. Alors envoyez-nous un petit message privé sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple des passes 3 jours à gagner ou des entrées du dimanche. Et sinon, nous avons aussi notre production locale du Radio Crochet proposée par l'équipe de Dans mon tiroir. Un petit récap.
Sonia, tu es prête?
Mais oui, Bruno, je suis même plus que prête. J'ai des fiches pour chaque candidat et ce Radiovision va être exceptionnel.
On se donne donc rendez-vous samedi 15 juin à 21h pour le grand concours de chansons Radiovision.
16 candidats, mais un seul vainqueur, un jury et le public à voter. Il va y avoir de la musique et du suspense.
Oui, et on compte sur vous samedi prochain, 15 juin à 21h sur cette antenne pour découvrir l'artiste Radiovision 2024.
Alors je vous dis à samedi prochain à 21h.
Et nous, on accueille nos invités.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Marie.
Bonsoir Pierre-Benoît.
Et bonsoir Xavier.
Bonsoir Pierre-Benoît.
Xavier de Richemont qui avait un petit peu de mal, on était dans la bonne rue mais pas devant le bon bâtiment, mais c'est bon, bien assis avec nous en studio ce soir sur le 101.5 FM. Ensemble on va parler de projection monumentale. On parlait de la Laurie il y a quelques instants, on y reste du coup sur le château de la Laurie, puisque ça y est, on décide donc de faire ces projections monumentales sur 3 ans. Alors ça a commencé cet été, ce sera les étés bien évidemment, tous les soirs sauf le mardi pour les informations pratiques. Fin d'après-midi, il y a une petite visite avec restauration et dès que la nuit commence à arriver, hop, les projecteurs se mettent en route et on emmène les spectateurs, spectatrices au cœur de l'histoire du château sur sa façade est du XVIIe siècle donc. Et je crois même savoir qu'il sera question peut-être de chevaux dans l'histoire, mais ça on va en parler dans quelques instants. Avant, Xavier de Richemont, pour savoir un petit peu, j'essaie de donner une définition tout à l'heure avec Angelina, elle nous a parlé de Triskel. Je ne sais pas si elle a été très éloquente pour nos auditeurs, auditrices. Qu'est-ce que sont les projections monumentales, pour celles et ceux qui ne connaissent pas?
Alors, c'est ce que on appelle aujourd'hui le mapping, qui est un mot anglais. Et moi, je dis projection monumentale parce que ça me paraît aller plus droit au but. C'est-à-dire que ce sont des projections vidéo qui sont réalisées sur des monuments et qui racontent des histoires.
Alors dit comme ça, ça a l'air très simple, mais il ne suffit pas d'avoir un vidéoprojecteur et puis d'envoyer des images, parce que tout se passe en 2D au départ, mais grâce au relief du volume, du bâtiment, enfin justement, ça crée des volumes. Il se passe quelque chose aussi à ce niveau-là avec le mapping.
Oui, c'est-à-dire que le monument parle et son architecture parle avec lui. Et selon la façon dont c'est traité, il y a une conjonction d'images, de couleurs et de lignes qui font que, en effet, le bâtiment prend vie. Mais moi, je ne fais pas de mise en mouvement de bâtiment. Je raconte vraiment des histoires et j'utilise un médium qui est un médium contemporain, récent, qui a 30 ans, qui est la vidéo, pour fabriquer des images animées qui ont de l'épaisseur et du contenu.
Alors, est-ce que dans sur le territoire, alors peut-être pas vos créations, mais est-ce qu'on a des exemples qui seraient parlants? Je sais pas, Angers, je crois que sur le château, il y a eu des choses comme ça. Est-ce qu'on est là-dessus? Est-ce que c'est ça le mapping, les projections monumentales?
C'est-à-dire que tout le monde est en mesure d'aller dans un magasin de beaux-arts, d'acheter de la peinture et un pinceau et de l'aquarelle. Voilà. Donc, tout le monde peut faire des projections avec un appareil vidéo et après, ça dépend de ce qu'on fait, comment on le fait. Et vous avez des, puisqu'on parle de peinture, parce que moi je suis peintre, il y a des grands peintres et puis il y a des peintres moins grands. Et donc on peut tout faire et tout le monde, et c'est à la portée de tout le monde, puisque bon, les projecteurs coûtent un peu cher, mais c'est à la portée de tout le monde de faire de la projection. Moi, c'est mon métier, donc ça fait 40 ans que je fais ça, et comme ça fait 40 ans que je fais ça, j'ai une certaine pratique et une certaine patte, comme on dit pour un peintre, ce qui me permet de parler d'une façon peut-être différente d'autres qui soit sont débutants, soit ont d'autres techniques. La technique est la même, ont d'autres préoccupations, on va dire. Moi, mes préoccupations, c'est de travailler mes images de façon à ce qu'elles ressemblent à ce que j'ai envie de voir et qu'elles racontent ce que les gens ont envie d'entendre. C'est-à-dire, en général, les commanditaires qui veulent que le projet, le travail parle de leur lieu, que ce soit une ville, une cathédrale, un château, une mairie, voilà.
Alors je crois qu'on parle de médium pour parler des techniques, hein, c'est ça. Il y a la peinture, il y a le monument, il y a la projection aussi. En quoi ce savant mélange vient créer une alchimie particulière qui va venir époustoufler, scotcher les spectateurs, spectatrices, on les appelle comme ça d'ailleurs?
Oui, c'est bien sûr. Oui, c'est-à-dire que c'est quand vous êtes devant un tableau, vous êtes spectateur. Donc les gens sont devant un tableau, ils sont spectateurs. Ce tableau est animé. Et ce qu'on appelle un médium, c'est la technique. La peinture est un médium, la vidéo en est un autre.
Donc là, on a un alliage de différents médiums. Donc Nolwenn, est-ce que tu vois de quoi on parle maintenant? Ça te parle un peu plus?
Je crois voir, oui, de quoi on parle, mais j'avais déjà vu. Du coup, ça sur le château d'Angers, il me semble qu'il y a déjà eu ça. Et c'était super à voir, c'était impressionnant.
Ah bah t'es pas au bout de tes surprises, je t'encourage dès maintenant à réserver ton 13 juillet pour aller du côté du château de la Laurie, puisqu'avec toi Marie et l'association des amis du château de la Laurie, du coup il y a eu tout un projet qui a été monté pour que ces projections monumentales aient lieu là-bas. On est toujours du côté de Segré et ça on en parle dans quelques instants, les contours du projet, comment c'est né et qu'est-ce qui va avoir lieu du coup les soirs d'été là-bas. C'est juste après les vagues bleues de Gessler sur le 101.5 FM de Radio G.
On a bien mérité des vacances, un morceau de soleil blanc, dans un bout de ciel bleu. Donc on s'entasse dans une vieille bagnole, et on se barre vite vers des eaux sableuses. Il faut s'enfuir loin des autres, et loin des averses qui s'acharnent sur les touristes. Le monde est si froid loin des côtes. Pour un peu de chaleur, on pourrait tout risquer. Y'a Parcells dans la radio, grand sourire devant les radars. On file vers quelque chose de brillant. On file et on ne s'arrêtera pas. Les yeux rougis, les os salés. Le cœur qui bat, les vagues bleues. L'esprit serein, les nuages solitaires. Sous ce soleil, on se sent un peu mieux. Les yeux rougis, les os salés. Le cœur qui bat, les vagues bleues. L'esprit serein, les nuages solitaires. Sous ce soleil, on se sent un peu mieux. Le sable s'est invité partout. Des morceaux de bord de mer étalés sur le parquet. Jusque tard on se moque de tout le monde. Et quelques bouts
bouteille vide qui se bouscule par terre. Le monde paraît si doux dans ce paysage. On se laisserait presque mourir avec les fleurs. On fredonne doucement de vieilles chansons. On croirait presque toucher le bonheur. Y a peur, cesse dans la radio. Un grand sourire car tout est radieux. Au-dessus quelque chose de brillant. Devant rien que les vagues bleues. Les yeux rougis, les os salés. Le cœur qui bat, les vagues bleues. L'esprit serein, les nuages solitaires. On se sent un peu mieux. Les yeux rougis, les os salés. Le cœur qui bat, les vagues bleues. L'esprit serein, les nuages solitaires. Sous ce soleil, on se sent un peu mieux.
Les vagues bleues de Gessler sur le 101.5 FM.
18h10, 19h, Topette sur Radio G.
On est toujours la Laurie et décidément ne lâche pas Topette en cette fin de saison. Cette fois-là, on ne parle pas du pont d'Ardoise, mais bien des projections monumentales de ces peintures vidéo ou de ces vidéos peintes. Enfin, justement, on est avec Xavier de Richemont, peintre vidéo qui va faire des choses du côté de la Laurie à partir du 13 juillet. On est aussi avec toi, Marie Nilinkidi, pour parler de ça. Alors, il faut que tu nous expliques comment tout ça a vu le jour, car il est question d'une association, les associations des amis du château de la Laurie qui se sont dit, tiens, on va faire appel à Marie et Marie va nous trouver une idée, quelque chose de génial à faire, et en voilà comment est né le projet en gros. Hein.
Alors oui, c'est pas tout à fait exactement comme ça que ça s'est passé. Je pense que c'était plutôt une relation entre Xavier et puis la propriétaire, donc Florence de Saint-Genis, qui se sont rencontrés et qui ont échangé sur ce projet-là. Ensuite est née l'association des Amis du Château de la Laurie pour porter ce projet-là, entre autres, parce qu'évidemment l'association a aussi une vocation d'animer et de soutenir en fait le monument. Et donc oui, en effet, ils ont fait appel à mes services pour les accompagner dans l'organisation de cet événement-là, parce que évidemment le clou du spectacle c'est la projection monumentale, mais la projection ne se fait qu'à la nuit tombée, donc à 22h30 l'été ou plus tôt, et donc il faut faire venir les spectateurs jusqu'au château avant 22h30, leur proposer des choses à faire, à voir et à manger, pour qu'ils puissent patienter jusqu'à la projection monumentale.
Alors justement, qu'est-ce qu'on leur propose en attendant ?
Eh ben, on leur propose une visite commentée du château. Donc il y a deux créneaux horaires avec des jauges de 50 personnes maximum qui sont prévues à 19h et 20h. Ensuite, on a un concert live avec une programmation musicale différente chaque soir. Donc on va du folk, de la pop, du swing, de l'électro, enfin pop électro. C'est assez varié, c'est assez éclectique. Donc 1h30 de concert et ensuite à 22h30, donc la projection monumentale de Xavier.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque? La Laurie, c'est, alors je sais pas si vous connaissez la Laurie dans le studio, c'est le château qui a du côté de, alors d'un côté de la Quatre Voies, mais aussi d'un côté de l'hippodrome, plutôt du côté boisé, à côté de Segré. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, je sais pas, est-ce que ça va vraiment parler au public? Est-ce qu'on a essayé de tâter le terrain à ce niveau-là? Parce qu'il y a des visites l'été, mais du coup là, on va avoir une proposition nouvelle pour le château. Il n'y a pas de décalage possible, non? Le public va être présent, Marie? Mais
on espère que le public sera présent, oui, c'est le but et c'est ce qu'on souhaite. Je pense que oui, il y a un public pour ce type de projet. L'objectif, c'est vraiment d'attirer un public qui ne va peut-être pas habituellement dans des châteaux, parce qu'ils ne s'y sentent pas forcément à l'aise. Et donc là, on essaie un peu de démocratiser le patrimoine en proposant des choses qui parlent à tout le monde.
Et alors selon toi, les grandes qualités du travail de Xavier qui a été fait là, je ne sais pas si tu as pu en avoir un avant-goût,
j'ai
un petit aperçu.
Images, oui.
À ton avis, les grandes qualités qui justement font que ça peut être qu'un moment qu'un exceptionnel garanti.
Déjà, comme il disait Xavier, une patte qui est assez différente de ce que les autres artistes peuvent faire en termes de projection monumentale. C'est très recherché, très coloré, très dense. Et le but, c'est vraiment de raconter l'histoire du château et pas seulement animer la façade, en fait. Et donc, ça permet de connaître l'histoire, mais d'une façon un peu plus ludique, on va dire, et originale, parce qu'il n'y a pas seulement la partie graphique, il y a aussi la musique qui accompagne et qui fait que c'est un spectacle à part entière.
Une musique live ou enregistrée, Xavier? Est-ce qu'on a une symphonie, un concerto qui est là, ou non? On a une bande son. D'ailleurs, c'est une bande son qui a été composée pour, ou alors comment on travaille à ce niveau-là entre image et son? On va essayer de rentrer dans les détails aussi de qu'est-ce qui va se passer concrètement sur cette façade est.
Oui, en réalité, la musique est essentielle à l'image. La musique arrive après, parce que la musique est une c'est moi qui la monte. Je ne la compose pas, je la sample, je la colle, je suis une sorte de DJ de la pièce en question, et donc je vais chercher des références musicales qui pour moi sont une façon de faire parler les images. Et une fois que la bande musicale est créée, elle est indissociable du contexte imagé. Mais il n'y a pas de texte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de narrateur. Enfin, ça arrive que j'en mette, mais c'est assez rare. Et ce sont les sujets qui le dictent. Et là, la musique est universelle. Et donc les sonorités, les sensations, enfin en fait tout ce que la musique donne comme sensibilité à l'image crée la bande son. Voilà. Ce sont des assemblages. Il n'y a pas d'époque nécessairement. Ce sont des musiques que je vais chercher parce qu'elles correspondent à ce que j'ai dans l'esprit par rapport aux images que je crée.
Alors Xavier, on va raconter l'histoire de la Lori, mais pas que, hein, on va pas juste faire quelque chose de chronologique, et puis voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, visuellement. Il y a une question d'affect aussi, alors que ce soit pour mettre en relief le lieu, au sens propre comme au figuré, et aussi peut-être dans le travail de recherche qui a pu avoir lieu en amont, c'est intéressant, il s'est passé ça, je vais essayer de véhiculer cette émotion que peut créer un tel moment historique. Je sais qu'il sera beaucoup question du cheval, parce qu'apparemment il y a un lien assez fort, par exemple, entre le château et puis les chevaux, il y a un hippodrome juste à côté.
Oui. L'hippodrome est né du château. Il n'y avait pas de chevaux, il n'y avait pas de course en France jusqu'au XVIIIe siècle. Il n'y avait pas de course de chevaux. Les chevaux étaient des chevaux qui servaient à l'armée. Il y avait des haras du roi. Les haras du roi étaient tenus par des inspecteurs généraux des haras, dont un des marquis de la Lori a été son job. Et lui, son fils est parti en Angleterre pour rencontrer le cheval et le cheval de course, c'est-à-dire ce qu'on a aujourd'hui à Chantilly, à Longchamp et à la Lori. Et à la suite de ce sont les Constantins de la Lori qui ont importé en France le cheval anglais et en Anjou, et qui sont à l'origine des haras d'Anjou et des champs de course d'Anjou. En Anjou, des anneaux d'équitation et des champs de course, il y en a partout, ou pratiquement partout. Il y en a dans tous les villages, dans tous les bourgs, enfin pas tous, mais il y en a beaucoup. Et c'est ce travail sur le cheval qui a fait que la Lori s'est agrandie, s'est modifiée, en conservant toujours ce qui existait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de modification notoire, il n'y a pas eu on n'a pas démoli pour reconstruire, on a toujours agrandi. Et dans la perspective du cheval, et dans la perspective du confort. Donc le cheval est intimement lié au monument, au bâtiment.
Mais là, on le raconte en parole, et l'idée, c'est que cette projection monumentale, peu importe le terme précis, oui. Le raconte en image au travers de vos peintures, en fait.
Oui, c'est ça, mais ça ne raconte pas que ça. C'est un moment, effectivement, il y a des chevaux qui arrivent au début, parce que au début, vous savez qu'on est en Gaule, on est en France, et la France a été dominé à une certaine époque et pendant un certain temps par l'Empire romain. Et donc les Romains sont venus jusqu'ici. Il y avait des légions, il y avait des villes, il y avait des voies romaines. Et Célestin Port, qui est le grand
l'historien de l'Anjou.
De l'Anjou, bien sûr, a écrit dans son dictionnaire que la Lori avait été construite en plein milieu de la voie romaine qui allait de Rennes à Angers. Et alors, bon, c'est pas exactement ça, mais en tout cas, ça fait, vous savez, la peinture, c'est l'imaginaire, et dans l'imaginaire, quand on a des pistes comme celle-là, on les utilise. Donc, on ira dans une villa romaine, et cette villa romaine, on y va à cheval, et il y aura des chevaux, il y aura donc des courses de chevaux, parce que il y avait forcément, s'il y avait une ville romaine pas très loin, il y avait forcément un cirque, ou en tout cas quelque chose où on pouvait faire des courses de chevaux, etc., etc. Après, les chevaux font la guerre, après, les chevaux sont l'objet de soins particuliers parce qu'ils deviennent des chevaux de race, des étalons, et plus des, je ne dis pas qu'un boulonnais ou un percheron ne sont pas des chevaux de race, mais ne sont pas des chevaux de course, ce sont des chevaux de port, c'est-à-dire des chevaux pour porter depuis le Moyen-Âge des hommes en armure qui pesaient 300 kilos, et donc il fallait des chevaux robustes. Si vous mettez ça sur un pur sang, il aime pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on prend, c'est pour ça que les jockeys sont de petite taille en général, un peu fluets et le plus léger possible pour que le cheval aille le plus vite possible.
Que j'ai l'impression que ce soit en mots ou en images, Xavier est un conteur né. Là, on est plongé déjà un petit peu dans l'histoire de la Laurie, puis avec les à côté. Alors juste quand même un point important, c'est le choix de la façade sur lequel sera mis en scène, quand va prendre vie justement les peintures, la projection, parce que c'est celle du 17e. Oui. Est-ce que c'est celle qui représente aussi bien la Laurie, peut-être dans ses évolutions au fur et à mesure de la voie romaine?
Non, elle a quasiment pas bougé. C'est le château initial, 1635, construit par René Le Pelletier, qui était un homme important de la ville d'Angers, et qui se ruine à la construction de ce château, qui n'est pas un gros château, qui est une grande. Avant, il y avait un petit château fort. Là, ça devient une grande maison, mais c'est pas un gros château. Il devient important, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que il s'équipe au fur et à mesure d'ailes, de cours, d'écuries, de manèges, etc.
Donc le choix de cette façade, c'est le côté pratique, c'est peut-être la plus grande.
Non, c'est parce que c'est l'origine. C'est la façade d'origine. Avec l'entrée, vous parliez de la quatre voies. À l'origine, on rentrait à la Laurie par une allée qui menait, qui maintenant est coupée par la quatre voies. Donc à l'est. Et aujourd'hui, on rentre par l'ouest vers Segré. Et cette façade possède un escalier parce que à cette époque-là, les étages de réception étaient le premier étage. Donc on se faisait déposer en calèche, enfin en voiture à cheval, devant l'escalier. On montait, il y avait deux rampes, à double rampe, et sous l'escalier, il y avait un porche, et on accédait à la cour arrière pour ranger ses chevaux, et les invités montaient au premier. Et puis au fur et à mesure que les us et les habitudes ont changé, on a fini par boucher cet accès et on est descendu au rez-de-chaussée et les salles de réception sont venues au rez-de-chaussée.
On sent que Xavier en a passé du temps à la Laurie. Ça y est, l'histoire de la Laurie n'aura plus de secret pour vous, auditeurs, auditrices. Dans quelques instants, on va s'intéresser au parcours. Comment on devient peintre vidéo? À quel moment ça nous traverse l'esprit? Et puis, à quel moment on commence à le faire et on cherche la confiance des collectivités, des clients, entre guillemets, aussi, pour mettre en œuvre son travail. Tout ça, ces réponses, on y répond juste après une petite balade avec Camille.
Envie de partir en vadrouille? Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous allions plaisir gustatif et visite touristique. Ça te dit ? Nous allons manger, puis visiter les caves de la Genevraie à Lourès-Rochemenier. J'espère que tu as faim, car nous allons bien manger. Et quoi de plus typique dans le Saumurois que les foisses dans des troglodytes ? Mais déjà, que sont les foisses ? Ce sont des galettes cuites dans un four à pain qui gonflent en chauffant et donnent de petits chaussons que l'on fourre avec ce que l'on veut. Bon, ce que l'on veut, peut-être pas n'importe quoi quand même. La tradition en Anjou, c'est de les manger dans un premier temps avec des champignons, puis de la rillette, des rillots, des mogettes et du fromage. Ça fait beaucoup de foisse. Certains finissent même par une foisse sucrée, au caramel beurre salé, à la pâte à tartiner ou à la confiture. Mais trêve de gourmandise, partons visiter ce restaurant. Nous entrons par un petit portail. On ne voit aucun bâtiment. Et pour cause, tout se passe sous nos pieds. Un chemin de pierre nous fait descendre vers une petite maisonnette, encastrée dans la roche. On dirait une petite maison de poupée, avec ses fenêtres éparpillées sur le mur. Passons à la porte d'entrée. Notre hôte de ce midi nous guide dans un dédale de petits couloirs jusqu'à arriver à notre table. La pièce est sombre, les murs étroits et nous sommes seulement éclairés à la lumière de la bougie. Que l'expérience commence. Après une première fouasse déjà garnie de champignons, c'est parti pour une farandole de petits pains chauds, de rillettes, de riots et autres spécialités angevines extrêmement peu caloriques. Le tout arrosé d'un verre de Coteau du Layon, puis d'une bouteille d'Anjou rouge. Une pause s'impose. Notre serveuse nous propose de nous guider dans les sinueux couloirs du restaurant Troglodyte. Elle nous mène tout d'abord au four à pain, encastré dans la roche, puis nous laisse déambuler dans différentes pièces, fléchées pour éviter que nous nous égarions. Des objets anciens et des meubles d'époque nous font nous souvenir que des Angevins habitaient ici. Cette petite marche digestive nous aura permis d'apprécier un dessert un peu plus light, une tarte aux poires ou une salade de fruits. Un dernier café et nous voilà remontés à la surface. Ce qui est atypique ici, c'est que c'est aussi un hôtel. C'est un beau cadeau pour des amis ne connaissant pas les Troglodytes ou pour soi et se ressourcer dans un endroit calme et recueillant. Pas encore rassasié ? À Lourès-Rochemenier, tu pourras visiter tout le village troglodytique en te promenant dans les ruelles et partir à la découverte d'un site exceptionnel. Deux anciennes fermes troglodytiques avec leurs pièces d'habitation et leurs dépendances. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous !
En balade avec Camille. Alors pour les cas, il faut quand même qu'il fasse un petit peu chaud pour pouvoir en profiter pleinement. Nous, on est toujours du côté de la Laurie à Segré avec toi Marie et toi Xavier. On parle de projection monumentale de peinture vidéo. Alors je ne sais pas, Angelina, Renaud, qu'est-ce que ça vous évoque? Je suis prêt à parier que Renaud, c'est une des premières fois que tu entends parler de cette activité créative, n'est-ce pas?
Une des premières fois, en effet. Moi, j'ai une petite question pour toi, Xavier, c'est... J'imagine que ça va être historique. Comment as-tu pu avoir toutes ces connaissances? Est-ce que c'est la propriétaire qui te les a données ou c'est de toi-même qui t'es informé sur le sujet pour justement faire une projection monumentale en lien avec le château et peut-être qui sera pas exclusivement historique, mais qui, tu le rappelais tout à l'heure, tu as quand même beaucoup rappelé des faits historiques. Donc j'imagine que il y a quand même beaucoup peut-être d'éléments qui seront historiques dans l'exposition.
De l'imaginaire et un petit peu de faits historiques en même temps, j'ai l'impression. Mais comment on fait pour trouver les faits, si je résume ta question, Renaud?
On demande aux gens qui savent, c'est-à-dire que par définition, moi je me pose toujours en naïf, je ne veux pas préconcevoir quelque chose qui ne serait pas dans la réalité historique. Donc je me fais raconter des histoires. Évidemment, je lis pas mal de choses, j'écoute beaucoup de choses, j'interviewe beaucoup de monde, donc je constitue un corpus d'informations qui fait que j'ai les éléments pour tisser et écrire une trame dramaturgique que je j'illustre dans un storyboard qui ensuite est formalisé par mes collaborateurs en atelier. Donc c'est une grosse partie du travail, c'est de se documenter, d'aller chercher les informations, qu'elles soient textuelles ou iconographiques, d'aller chercher des images de qualité pour pouvoir les projeter et qu'elles fassent 10 mètres de large ou 7 mètres de haut, de façon à ce que il y a un piqué, etc. Donc c'est tout un travail à la fois de recherche journalistique, hein, totalement. Et comme je ne présume pas de ce qui s'est passé dans les endroits, parce que avant de connaître la Laurie, je ne connais pas la Laurie, je demande aux gens qui savent. Donc il y a toujours des historiens, évidemment les propriétaires savent des choses, possèdent des objets, je photographie énormément, j'ai visité la Laurie en long, en large et en travers, et j'ai photographié tout ce qui m'intéresse. Après, l'histoire, elle est chronologique parce que je crois que dans ce type de projet, la chronologie aide le public à s'y retrouver. Si je passe du coq à l'âne ou du 14e au 18e et puis que je redescends au 12e et qu'après je vais au 20e siècle, il y a quelque chose qui va. Donc, c'est chronologique. Ça, c'est pas toujours le cas. Hein. Ça peut être thématique. On aurait pu prendre, choisir de parler d'un certain nombre d'objets qui sont là-bas, du mobilier, de la peinture, du cheval, du vin, de l'hippodrome. Mais j'ai préféré parler de tout cela au travers d'une chronologie qui permet aux gens de passer de l'époque romaine à l'époque contemporaine.
Je crois même que du côté de la Loire, l'expression s'est passée du coq au cheval, si on veut totalement raccord.
Oui, il n'y a pas d'âne, oui.
Moi, j'ai une question. Comment on devient peintre vidéo, quoi? Parce qu'en fait, c'est même un terme qu'il faut s'inventer, presque.
Je l'ai totalement inventé, c'est déposé. J'ai inventé ça il y a peut-être une quinzaine d'années, peut-être un peu plus. Parce que on me demandait ce que je faisais, alors je disais que j'étais peintre, et on me dit ah bon vous peignez quoi, alors je dis je peins avec de la vidéo, ah bon alors c'est quoi et tout, j'ai dit je suis un peintre vidéo, donc j'ai fini par m'affubler de ce titre que j'ai donc inventé, que maintenant certaines personnes utilisent, de la peinture vidéo. On me dit on voudrait une peinture vidéo, je préfère qu'on me dise je voudrais une peinture vidéo plutôt qu'on me dise je voudrais un mapping, d'abord parce que j'aime pas le mot, je trouve qu'il a pas de sens, il a pas de sonorité, c'est un anglicisme.
Même à l'étranger, parce que là on parle de la Laurie, mais il y a aussi des réalisations au Mexique, en Inde, un petit peu partout au travers du monde,
sure.
Au Canada par exemple.
Certainement, mais quand je suis aux États-Unis ou quand je suis en Amérique du Sud, on parle anglais ou espagnol, mais moi je dis projection ou projections, je dis pas mapping.
Donc projection monumentale, c'est bon, ça passe. Alors là, on va pas avoir assez de temps, malheureusement, pour voir
2 heures d'émission.
Oui, même un petit peu plus, mais par contre, on peut découvrir où tout ce travail-là, en plus de la Laurie, un site internet, je crois, qui permet de recenser un petit peu tout ce qui s'est passé.
Oui, ça c'est sûr. J'ai un site internet qui est pas trop mal fichu et qui retrace. On peut voir beaucoup de choses. Suffit de saisir Xavier de Richemont et vous trouvez. Et sinon, faut voyager. Vous pouvez aller aux États-Unis, au Mexique, en Espagne, dans différents pays du monde où j'ai des pièces qui sont en place depuis 10, 15 ans quelquefois, qui sont les mêmes. Quand on achète un beau tableau, on le garde, on le met pas dans les toilettes après 2 ans, on le laisse dans son salon. Donc les pièces que j'ai réalisé dans certains pays, c'est pas le cas de toutes, hein. Quand elles restent, je suis très heureux parce que ça permet à beaucoup de monde de les voir. Des millions de personnes ont vu mon travail au Texas et ça, c'est aussi la manière pour moi d'avoir d'autres commandes d'autres pays ou d'autres États, des États-Unis par exemple, parce que c'est en allant voir des expos qu'on voit de la peinture, et c'est en voyant la peinture qu'on l'aime et qu'on a envie d'en avoir.
Des millions de personnes ont vu mon travail au Texas. Tout le monde ne peut pas dire ça, j'ai l'impression. Alors on reste ensemble, bien évidemment, Marie et Xavier, on redonne toutes les informations pratiques dans quelques instants. Juste avant tout ça, on fait un petit tour en sport. C'est à propos, il y a le festival millième de seconde qui commence ce week-end. L'occasion de se replonger dans l'interview qu'on avait fait avec Julia Roger-Veillère l'année passée.
18h10, 19h, c'est Topette. Sur Radio G.
J'ai essentiellement de la photo de montagne, escalade, cascade de glace, alpinisme, ski. Et puis je me diversifie petit à petit dans la photo de sport en testant un peu d'autres disciplines que les sports de montagne.
Julia Roger-Veillère s'est installée à Chamonix pour vivre de près sa passion des sports outdoor et de montagne. Dans les crevasses ou en escalade sur des parois vertigineuses, ses photos mêlent esthétisme et goût du vide. Lauréate du prix Shutter Life Adventure Photography Competition en 2022, elle expose aussi à Saint-Mathurin-sur-Loire pour la 2e édition de Millième de Seconde. Une interview réalisée par Pierre-Benoît Leclerc.
J'ai plusieurs aspects de mon travail. J'ai des projets personnels avec certains athlètes, dont un en particulier qui est sur certaines des photos qui sont exposées sur le festival en ce moment. Et du coup, là, c'est vraiment des projets qui nous animent personnellement et pour l'athlète et pour moi, où on va décider d'un spot en particulier et puis aller explorer l'endroit. Et si lui, il arrive à ouvrir les voies en escalade, en alpinisme qui l'intéresse, Grèce et moi à faire les photos, bah, du coup on a réussi, c'est jackpot pour nous deux. Ensuite je fais aussi, je couvre des événements de sport, que ce soit des compétitions sportives, des coupes du monde, de snowboard, de ski de boss, d'escalade, d'escalade sur glace. Et puis je fais aussi pas mal d'enseignements photo, où j'anime des ateliers en montagne et en haute montagne pour des festivals d'alpinisme et d'escalade dans la vallée, où j'essaie de transmettre ma passion de la photo au public. Donc j'ai commencé la photo autour de la haute montagne et de ma pratique d'amatrice, en emmenant toujours un appareil photo avec moi. Et puis petit à petit, j'ai commencé à y aller plus pour la photo que pour l'activité montagne en elle-même.
Mais en parallèle, tu fais pas que ça en fait, t'as un autre métier à côté d'infirmière.
Oui, c'est ça, j'ai passé mon enfance à Paris et à l'issue de mes études, j'ai déménagé dans la vallée par motivation pour le mode de vie à la montagne et pour avoir des grands espaces autour de moi en pratiquant la montagne occasionnellement. Et puis j'ai toujours travaillé dans le soin et dans le secours. Là, ça fait quelques années que je suis infirmière à plein temps et que je partage du coup mon temps entre l'activité de soignante et la photo.
Et comment on concilie tout ça ? Est-ce que tu as du temps pour toi ou alors justement c'est tu rends l'utile à l'agréable ou je sais pas, tu connais
l'expression ? Oui, je pense que c'est une expression qui me va plutôt pas mal au quotidien. J'ai pas beaucoup de temps. C'est vrai que c'est assez sport comme emploi du temps. Mais du coup, j'essaye d'utiliser le moindre temps personnel pour pouvoir mener à bien les projets qui sont assez foisonnants, parce que j'ai toujours plein d'idées en tête, et ça rend le challenge encore plus intéressant.
Est-ce qu'il y a une patte Julia dans les photos ? Quel est ton style, ton approche par rapport à tu cherches plutôt la, tu essayes de trouver quelque chose en particulier ou tu vas plutôt à l'instinct pour saisir un moment particulier dans l'ascension, dans le sport en action ?
Alors c'est une très bonne question. Moi, je sais que j'ai des détails très précis en tête de ce que je recherche en photo. Maintenant, c'est, je pense, le public qui sera le mieux à même de pouvoir dire si j'ai quelque chose qui se reconnaît. Mais en tout cas, j'ai toujours une recherche particulière au-delà de la performance même du sportif ou de la compétition en elle-même. Je suis très sensible aux textures et c'est pour ça que j'aime l'élément glace, puisqu'on a tellement de couleurs et de formes différentes selon qu'on soit dans les glaciers, qu'on soit en haute montagne, selon l'humidité et puis les pays aussi. Et j'ai toujours une recherche sur des textures particulières, des lignes géométriques, un équilibre dans une photo. Donc voilà, après entre ce qu'on a en tête et ce qu'on arrive à faire sur le terrain, c'est encore autre chose, mais en tout cas c'est mon leitmotiv.
Est-ce que dans ces cas-là, des fois, tu te permets une petite mise en scène où il y a d'abord, tu demandes de refaire parce que là, c'est bon, t'as trouvé un spot ou t'as trouvé de refaire en fait la même chose, mais cette fois-là, un peu mise en scène pour être sûr de capter le moment où tu restes vraiment sur ce côté authentique, sur le vif.
C'est un peu un mélange entre les deux parce que la limite de refaire les scènes dépend aussi de l'athlète. Et là, en l'occurrence, quand les grimpeurs font un essai, ils peuvent pas forcément figer le mouvement ou refaire. Et puis, ça laisse des traces dans la glace aussi, les ancrages. Donc, du coup, après, on n'a plus ce côté vierge sur certains endroits. Donc, c'est vraiment arriver à composer avec ça. C'est sûr que j'aime bien le côté assez spontané, mais il y a quand même de la recherche pour trouver le bon endroit. Et puis, moi, je me connais. Hein. Je vais passer la première heure à pas être satisfaite du tout de ce que je fais. Et puis, d'un coup, je vais trouver l'endroit. Et là, c'est vrai que sur certaines des photos, bah, je lui ai fait figer le mouvement quelques secondes, qui était déjà très compliqué pour lui. Mais dans la mesure du raisonnable, parce que l'idée, c'est aussi qu'il tombe pas et qu'il se blesse pas.
Une photo, justement, qui a un peu plus marqué tes souvenirs, parce qu'elle a été compliquée à prendre, ou elle a mis du temps à arriver, cette photo, mais une fois qu'elle était là, t'en étais particulièrement fier.
Eh bien, il y a une des photos du festival où on voit donc cet athlète et ami Jeff pendu en train de grimper avec ses piolets et ses crampons dans ce puits de glace qu'on appelle un moulin. Cette photo, pour moi, elle a plusieurs significations. Déjà, d'emblée, c'était pas un milieu que que j'avais l'habitude de pratiquer en tant que photographe, et du coup je me suis mis beaucoup de pression pour ce shooting là. J'avais vraiment une envie de résultat, et puis on avait passé donc en tout on a passé 2 jours sur place, et c'est vrai que le premier jour de shooting on n'arrivait pas forcément à faire ce qu'on voulait et on n'avait pas des très belles conditions. Et donc je me suis dit bon ben on va rentrer bredouille. Et finalement, on est descendu dans ce moulin qui était très esthétique. Et j'aime beaucoup cette photo parce que c'est finalement une des rares où j'ai vu la scène et j'ai vu le rendu que je voulais avoir. Et j'ai eu le rendu final exactement après, sur l'ordinateur, en rentrant à la maison au chaud. Donc j'étais vraiment satisfaite de cette photo-là.
Si on parle du festival maintenant, millième de seconde, du coup, sur lequel tu es exposée, tes photos sont exposées. Julia, tu peux nous parler de ce festival, de ton regard sur cette initiative, sur comment tu as accueilli la nouvelle du fait que tes photos allaient être exposées ici, sur les bords de Loire. T'as vu, c'est magnifique, hein?
Je suis vraiment ravie d'être là. Je vais pouvoir découvrir l'exposition en vrai, en réel, en baladant et puis avec le public. C'est vrai que j'étais très honorée et très touchée d'avoir été choisie pour être exposée ici. C'est une première pour moi, une exposition grand public comme ça. Et je trouve l'initiative vraiment, vraiment exceptionnelle.
Quel regard tu portes sur ce métier que toi tu exerces en doublon en plus? J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de passion nécessaire pour l'exercer.
Ouais. Je pense qu'il faut vraiment pas se limiter. Ce qu'il faut avant tout, c'est être animé par le plaisir de faire de la photo, quelle qu'elle soit. Bien sûr, maîtriser les techniques de base et surtout son matériel, c'est très important. Mais après, je pense qu'il faut pas se mettre la pression en se disant que les gens font mieux et qu'on n'a pas notre style. Il faut surtout essayer de réfléchir beaucoup, je pense, à l'intention qu'on met derrière les photos et qu'est-ce qu'on veut montrer au monde, qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens qui regardent nos photos. Et il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas derrière. Il y a des gens, des fois, qui sont très très forts en technique, mais qui ne signifient rien avec leurs photos. Et du coup, je pense que c'est le plus important. Les gens, des fois, les photos sont pas parfaites, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se transmet et ça nous fait des émotions quand on les regarde. C'est le plus important.
Merci beaucoup, Julia.
Merci beaucoup.
Le festival Millième de Seconde à Saint-Mathurin-sur-Loire a lieu tous les ans et met en lumière le métier de reporter photographe autour d'un thème commun, le sport. Plus d'informations sur millième de seconde au pluriel.com. Et d'ailleurs, millième de seconde qui repart ce week-end du côté de Saint-Mathurin-sur-Loire pour la 3e édition. On embrasse Élie, Quentin, Jocelyn, toute l'équipe organisatrice. En attendant, nous, ce soir, dans Topette, on parle d'un autre événement. Ce sera pour l'instant, c'est à partir du 13 juillet et jusqu'au 15 août. Et ça se répétera pendant 3 ans encore derrière. Marie, on parle du château de la Laurie. Qu'est-ce qui serait essentiel, selon toi, d'avoir en tête, de bien mémoriser, de bien comprendre sur ce qui va se passer cet été pour, c'est ce qu'on disait hors antenne, ce que Xavier disait, c'est si vous ne connaissez pas, allez à la Laurie, tu auras un petit peu le même message aussi.
Exactement, venez nombreux, il y a la billetterie donc qui est déjà ouverte, qui est en ligne sur chateaudelalaurie.fr sous l'onglet billetterie, avec différentes possibilités de billets pour les familles, concert seul ou le pack complet avec le concert et la projection.
C'est tous les mardis pendant un mois,
sauf le mardi pendant du 13 juillet au 15 août.
Voilà, et ça se répétera donc l'été prochain normalement.
Tout à fait.
Et l'été suivant
et
aussi.
D'après, voilà.
Voilà, avec ce point d'orgue, ce clou du spectacle que sera la projection monumentale, ça on a le droit de le dire, Xavier. Mapping non, mais projection monumentale on peut.
Tu dis ce que tu veux, mais ça s'appelle, j'ai appelé ça le château merveilleux parce que le médium, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les moyens de projection, la projection à proprement parler, permet des choses merveilleuses.
Et qu'est-ce qui serait pareil important de comprendre de ce que sera cette projection monumentale sur le château de la Laurie, sur cette façade est du XVIIe siècle? Les chevaux, de la peinture, de l'émerveillement, du son, c'est un ensemble?
Oui, c'est ça, oui. C'est une conjonction, voilà, d'histoire, de peinture et de musique. Et c'est très facile à appréhender, c'est pas du tout complexe, c'est visuel, et c'est beaucoup d'émotions grâce à l'image et à la musique.
Beaucoup d'émotions donc en perspective du côté de la Laurie à partir du 13 juillet. Xavier, d'un mot, peut-être des actualités, d'autres projets qui sont en cours ou qui commencent à avoir lieu. Je ne sais pas si on peut avoir le droit d'une exclusivité ce soir dans Topette, vraiment en 20 secondes.
Alors, je rentre du Mexique où j'ai fait une pièce dans la ville de Monterey et je me suis arrêté aux États-Unis où je prépare un travail pour le 250e anniversaire de l'indépendance, de la déclaration d'indépendance 1776-2026.
Des États-Unis donc ?
Des États-Unis à côté de New York.
Bon, bah voilà, ça c'est une exclu. Ce sera un petit peu plus loin que la Laurie pour y aller. Ouais. Je sais pas si.
Le château de Bousset aussi.
Les 7 heures d'avion. Oui, effectivement, oui, bien sûr, oui. Et plus proche de la Laurie, le 16, 17, 18 août, au château de Bousset en Touraine, les 1000 ans du château de Bousset, 1000 ans d'un château qui appartient à une même famille depuis 1024.
Et ben voilà, Xavier de Richemont est aussi animateur radio. Merci beaucoup, à demain 18h10, Topette.